Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse ?
Le règlement.
Nous devons savoir.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Comment ça va, Madame le Maître?
Ça va super.
Allô,
bien.
Allô, Sophie.
Vous, comment ça va?
Ça va bien.
Très bien.
J'ai pensé à toi cette semaine quand j'ai lu le sujet. Je me suis dit, c'est sûr que ça va t'intéresser parce que ça touche une corde sensible. Frauder les assurances ou un collègue blessé, un collègue de travail blessé qui manque du travail pendant une période de temps. Mais t'as pas l'impression que c'est si pire que ça. Tu juges de l'extérieur que il serait apte à travailler. On entend souvent ce genre de choses-là et on a eu un cas directement dans le hockey. Souvenez-vous de l'incident. Ben, c'est triste là, ce qui s'est passé en 2004. Là. Todd Bertuzzi qui envoie de plein fouet Steve Moore face contre la glace. Vous vous souvenez de l'incident.
Point de côté par en arrière. Là,
par en arrière, oui. Je l'ai regardé la vidéo hier.
Ah, oui, c'est des images. J'ai pas eu à le regarder dans les derniers jours, sauf que c'est resté marqué dans nos mémoires, Gilbert, ce moment-là, et qui a mis fin à la saison de Todd Bertuzzi, mais à la carrière de Steve Moore. Todd Bertuzzi qui, sur le jeu, a obtenu une inconduite de partie et 10 minutes pour avoir tenté de causer une blessure. Et bien sûr, il y a eu une montée d'émotions dans la place et plusieurs autres minutes de punition qui ont été attribuées à gauche et à droite entre les Canucks, équipe de Bertuzzi, et l'Avalanche Colorado, équipe de Steve Moore. S'en est suivi, bien sûr, une longue suspension pour Todd Bertuzzi qui reviendra après le lockout. Mais ce qui a ramené le sujet dans l'actualité, c'est les propos de Brad May, qui était à l'époque sur le jeu, qui était coéquipier de Todd Bertuzzi, qui lui aussi a passé pas mal de temps au banc des punitions ce soir-là, Sophie. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, Brad May?
Et Brad May s'est présenté en entrevue déclarant que l'histoire de Moore était exagérée et que finalement, il n'y avait pas eu de blessure tant que ça. Lui, il dit que suite à cet événement-là, il a vu Moore dans sa piscine deux semaines plus tard et donc qu'il y avait une exagération. On se rappelle que Moore a quand même eu un traumatisme crânien et une fracture d'une vertèbre, là, c'est pas rien, là. Fait que là, ça m'a fait réfléchir à tous mes travailleurs, mes accidentés, qui subissent ce préjugé-là de leur famille, de leurs collègues, etc.
Mais quoi, selon Brad May, après être revenu de cette blessure-là, Steve Moore aurait pu revenir au jeu. C'est ce qu'on comprend, là, mais il n'a jamais pu rechausser des patins par la suite. Alors, le règlement est survenu 10 ans plus tard, en 2014, pour Steve Moore. Oui. Alors, s'il avait voulu frauder, ça aurait été mettre sa carrière en péril. Il n'était pas certain de gagner quelque chose là-dedans. Là.
C'était pas un joueur étoile, Steve Moore, non plus. Là. Donc, tu sais, lui, il était comme in and out, là, comme on dit.
C'est ça.
C'était pas un joueur qui a son poste assuré toutes les années non plus. Là. Donc, il faut faire attention aussi. Là.
Oui, non, mais il y avait un avenir qui était peut-être un peu plus rose que ce qu'il a eu, finalement.
Ben, il aurait pu continuer à jouer au hockey. Est-ce que ça aurait été tout le temps dans la Ligue nationale? Peut-être pas, mais ça aurait été certainement...
Et tu gagnes bien ta vie quand même quand tu fais la Ligue américaine et des contrats deux volets.
Mais si je me trompe pas, cet événement-là est arrivé dans son année recrue, hein, Gilbert?
C'était, je pense, au début de sa carrière. Ouais. Ça faisait pas longtemps qu'il jouait, là, ça c'est sûr. Écoute, on parle de ça, là, ça fait combien de temps?
2004.
Ça fait 16 ans. Puis dans le fond, c'est May qui a ramené ça un peu sur la sellette en discutant là, en entrevue. Là. Mais tu sais, quand même, d'un autre côté, je vois pourquoi Moore, lui, trouve ça difficile. T'sais, c'était sa première année, c'était un rêve d'enfance. Il voulait, donc, il n'a jamais pu récupérer sa carrière. Puis tu sais, c'est un rêve là, que, tu le sais, là, tout joueur de hockey rêve. Donc, rapidement, est-ce qu'il aurait pu être une star? Peut-être. Mais il n'a pas eu l'occasion de se prouver.
Il avait joué 8 matchs en 2001-2002, 4 matchs en 2002-2003. Donc oui, dans les règles, là, c'est encore une saison accrue parce que cette année-là, il en a joué 57. Donc, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce que ça aurait donné comme joueur. Peut-être qu'il aurait eu une stabilité dans la LNH tôt ou tard parce que, tu sais, deux premières années à faire la patrouille entre la Ligue américaine et la LNH, c'est assez habituel pour un joueur là, moyen. Là.
Donc, oui, effectivement. Là, ce qu'on sait, évidemment, les règlements hors cours sont confidentiels. On sait qu'il y a eu un règlement hors cours pour plusieurs millions de dollars. Alors, c'est un peu ça que je pense que May venait de dire, qu'il y avait eu de la fraude dans cette histoire-là. Je trouve que c'est un peu mal placé parce qu'effectivement, une fracture d'une vertèbre, un traumatisme crânien pour un joueur de hockey est encore plus grave que quelqu'un comme moi, par exemple, qui est capable de faire du travail sédentaire ou clérical. Là.
Et Steve Moore, s'il avait eu quelconque chance de revenir, il l'aurait fait.
Bien sûrement, c'est sûr.
Il n'y a pas d'intérêt à rester chez eux.
Oui, je trouve ça gratuit un petit peu, de Brad May, là, que, parce que tu as une vertèbre de cassé là, dans le cou. À un moment donné, là, tu te casses le cou, là, c'est difficile de revenir au jeu, là, puis t'es craintif et tout ça, surtout que t'es une recrue en plus. Écoute,
mais disons qu'il a échappé, sauf que ouais. Ça nous permet de parler de ces dossiers ouais. De fraude, parce que si il y a de nombreux accidentés qui n'arrivent pas à obtenir justice et donc obtenir indemnisation. Il y en a plusieurs qui ont des problèmes. Autant envers la CNESST que la SAAQ, il y a des dossiers qui traînent en longueur.
Oui, les assurances privées aussi, là, l'année passée. Là, on se rappelle de l'histoire d'Archibald là, avec un dossier qui est très médiatisé avec Radio-Canada au fait que c'était un animateur qui avait fait une émission de radio. Ça avait été ça s'est rendu aux oreilles de Desjardins qui avait mis fin à ses indemnités et tout. Là. Ça avait été fait une grosse histoire là, en février là, l'année passée, là, en 2019, si je ne me trompe pas.
Et donc, ça nous permet d'en parler. S'il y a des gens qui ne reçoivent pas d'indemnisation, c'est qu'on a fait une évaluation, on a évalué la situation et on a jugé qu'ils n'en méritaient pas. Et pourquoi il y a des évaluations autant que ça? C'est que ça existe aussi des abus. Là.
Ben oui, effectivement. Puis c'est pour ça que nos accidentés ou les gens qui sont blessés ont tellement de mauvaise réputation à cause de la poignée de personnes qui vont faire en sorte de faire de la fraude. Alors, j'ai quelques exemples à vous donner qui sont tout récents, en 2019. Donc, effectivement, un article de juillet 2019 où un homme a été condamné à 44 mois de pénitencier parce qu'il a fraudé la Société de l'assurance automobile de 530 000 $. Donc, lui, il disait qu'il n'était pas capable de travailler et il a été filmé en train de flatter du béton, si vous me permettez. Un travail physique. Donc, on lui a réclamé la somme de 530 000 et il a été reconnu coupable de 44 mois de pénitencier. Mais en plus, il a essayé de soudoyer des témoins. Donc, on lui a donné 3 ans pour les gestes de fraude et 8 mois supplémentaires pour l'accusation d'entrave. Donc, lui, il n'a pas aidé son cas du tout, là. Lui, c'était une personne en particulier. Moi, je vois ça dans mon bureau à l'occasion où des gens ont été enquêtés, mais les choses sont prises hors contexte. On revient à l'histoire de Moore qui a été vu dans sa piscine. Puis, c'est toute la physiothérapie, c'est bon pour
exact.
Lui.
Moi,
j'ai dit. C'est pas la même chose que jouer un match, là. Non. Gilbert, tu me confirmes que jouer un match dans la LNH puis prendre une bière dans la piscine, c'est deux efforts différents.
Non, mais en même temps, tu pouvais peut-être. C'est peut-être bon pour lui aussi de faire un petit peu de nage pour sa réhabilitation aussi, là. C'est peut-être pour ça qu'il était dans la piscine, là.
C'est moins de pression pour la colonne vertébrale et les vertèbres.
Il faisait pas des triples vrilles du tremplin de 10 mètres, là.
C'est ça.
Exact, exact. T'sais. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai une collection de vidéos au bureau où des gens vont avoir été pris en contexte. Par exemple, conduire longtemps qu'ils disent qu'ils sont capables. Tu sais, dire « je suis pas capable de conduire plus que 20 minutes, mais avoir été filmé, conduire 30 minutes, je pense que c'est pas grave. » Des fois, c'est vraiment pris hors contexte.
Sauf si tu fais Montréal, Floride, avec ton camion, là.
Mais exact, ouais, là, c'est ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais tu sais, des fois, il faut faire attention, puis on a des préjugés envers les gens qui sont malades et on devrait pas en avoir. Et là, j'enchaîne avec une autre histoire qui s'est passée en 2019. Il y a un projet Pactole. C'est une opération qui a été faite par la Division des enquêtes sur la criminalité financière par la Sûreté du Québec, qui a dévoilé un réseau complet de simulateurs de faux accidents démantelés. Il y avait trois professionnels de débossage et un remorqueur qui payait des gens pour effectivement gonfler les dommages au véhicule.
Okay.
Après ça, ils formaient des coupes. Donc, tu sais, disons, par exemple, toi, t'arrivais pour faire réparer ton véhicule à ce garage. Là, ils disaient, écoute, toi, LP, je te jumelle avec Gilbert. Là, je vous fais en coupe et vous allez dire que vous avez eu un accident.
Ça serait un couple très improbable, Gilbert et moi.
Fort probablement. Et après ça... Mais vous êtes un couple depuis longtemps quand même,
oui.
Un couple de travail.
Effectivement, en onde.
Mais c'est ça, que ça serait un couple.
Mais c'est à sens unique. Gilbert veut rien savoir de moi.
Oh, j'en doute fortement. Bon, en tout cas,
On partage les mêmes passions.
C'est vrai qu'on a bien des points communs.
Beaucoup de culture.
Tout à fait. Puis toi, t'aimes bien gros manger, puis moi, j'aime faire à manger. Fait qu'on se complète.
Ben oui.
Vous êtes drôle. Donc, ceci étant dit, disons que vous êtes un couple pour la fin de l'exercice.
Oui,
ils vous mettent ensemble.
Oui.
Et à ce moment-là, vous facturez des frais supplémentaires sur le véhicule et vous dites qu'il y a des dommages corporels.
Mais ça va mal tourner, là.
Ben, c'est sûr que ça a mal tourné.
On va finir par se faire prendre, là.
Ben oui, ils font face à des accusations de fraude, de fabrication de faux documents, donc des constats à la d'avoir conseillé à des gens de commettre des crimes puis de conduite dangereuse. Parce qu'en plus, des fois, eux-mêmes faisaient l'accident en se mettant des casques pour évidemment pas trop se blesser. Et s'il n'y avait pas assez de dommages sur le véhicule, ils rentraient le véhicule dans le garage puis ils terminaient ça à la main.
Ben voyons donc.
Ben oui.
Des coups de masse.
Donc, les propriétaires des véhicules pouvaient déclarer à l'assureur puis collecter des indemnités en conséquence de psychothérapie, de physiothérapie, etc.
Et je pense, eux autres, ils pensent que les assureurs vont donner un chèque sans regarder, sans vérifier. Regarde, parfait. Ah, oh, c'est bon, parfait, on t'envoie un chèque. Voyons donc.
Mais c'est à cause de ces gens-là que quand t'appelles tes assurances pour une réclamation, t'as l'air de voleur jusqu'à preuve du contraire.
C'est vrai.
C'est vrai. Ça a changé le fardeau de preuve. Puis moi, ça fait 22 ans que je suis avocate. Puis on recule dans le temps. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas de téléphone, etc. Mais aujourd'hui, là, je le répète souvent, Big Brother is everywhere. T'es pas capable de t'en sortir. Si tu te dis que t'as eu un accident à Saint-Jérôme, ils sont capables d'aller chercher ton téléphone avec les satellites, etc., pour vérifier si tu étais vraiment à Saint-Jérôme.
Puis si tu dis, c'est pas moi qui étais au volant, là, mais que le siège est reculé, puis les miroirs sont alignés pour toi, là, essaie pas de faire croire que c'est l'autre personne qui était au volant. Là. C'est toi qui étais au volant.
Maintenant, tout ça finit par se faire savoir là, avec l'avancement de la science et tout ça. Là. Et j'ai un dernier exemple là, que je veux discuter avec vous, qui n'est pas des accidentés, mais aussi dans le domaine de la santé. Il y avait un physiothérapeute en 2013 qui a fraudé la CNSST et la SAQ pour 1 million avec la complicité de ses employés. Dans le fond, là, lui, il avait mis en place un système d'inondation, de factures directement à la CNSST et à la SAQ. Donc, il aurait envoyé 1500 fausses factures à la CSST et 1000 à la SAQ. La police évalue que ça, qu'effectivement, là, sa fraude s'élève à 1 million de dollars.
Aïe, aïe. Ça peut monter, là. Sophie, merci beaucoup. Il va falloir se reparler bientôt. On n'a pas le temps ce matin. Je t'ai entendu avec le Club en anglo cette semaine avec Stéphane parler du cas d'Yvon Michel devant la régie. On va suivre ça avec intérêt. De toute façon, là, les faits ont été connus. C'est dans la convocation de la régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. L'audience en février va pouvoir nous en dire plus à ce moment-là.
Moi, je pense qu'il va s'en sortir parce que la jurisprudence que j'ai trouvée, ça s'est toujours terminé uniquement par des engagements de faire attention les prochaines fois. Fait que moi, je suis pas inquiète pour lui.
Maître Mongeau, bonne semaine.
Bonne semaine.
Bye, Sophie.
Bye.